Bonjour, soyez bienvenus en ce dimanche, jour de Pâques, où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Aujourd'hui, deux invités pour cette émission, Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux. Et puis en seconde partie, nous écouterons le témoignage de Julien Leclerc, auteur de ce livre « Catholique débutant ». Mais commençons avec vous, Monseigneur Jacques Habert, sur cette fête de Pâques, et cette fête de Pâques qui se prépare avec un temps qui s'appelle le carême. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs. Souvent le carême, on le présente avec un certain nombre de résolutions qu'on va prendre. Alors le jeûne, la prière, le partage, qui sont évidemment des bons moyens. Mais ultimement, le but, c'est cette beauté initiale de la création, la beauté aussi de la relation interpersonnelle, la beauté de notre relation à Dieu, et puis la beauté de notre relation à nous-mêmes, pour arriver à ce jour de Pâques où la beauté du Christ ressuscité, eh bien, doit aussi nous rendre voilà, très, très, très heureux ce matin d'être dans cette joie de Pâques. On imagine le Christ défiguré sur la croix, le Christ supplicié du Vendredi Saint. Et aujourd'hui, le Christ, voilà, qui est beau parce que la création est belle, parce que le pardon est beau. Et donc, oui, que ce temps du carême ait pu nous aider à aller vers plus de beauté. Un théologien disait, c'est la beauté sauvera le monde. Et bien, évidemment, c'est le Christ qui sauve le monde. Et aujourd'hui, nous le redisons avec force. Mais cette beauté est aussi un moyen de le connaître et de le rencontrer.
Vous avez mis aussi, vous, quelques accents sur un effort de carême particulier et vous avez mené à bien cette résolution.
Oui, je me suis posé personnellement la question, souvent dans le carême, est-ce que je suis pas indifférent? Alors après, ça peut, voilà, à telle situation pastorale, à tel coin du diocèse, à tel aspect de la vie du département. Et donc, quand on a cette espèce de grille de lecture de l'indifférence, eh bien, voilà, on réfléchit, puis on se dit, ben voilà, de considérer un certain nombre de questions que des fois on oublie. Et c'est en ce sens où aussi le carême est un lieu de vérité. Est-ce que je suis en vérité devant toutes les questions auxquelles je suis affronté? Non pas pour les résoudre forcément, mais au moins pour les regarder en face.
Nous sommes donc aujourd'hui le jour de Pâques, jour de la résurrection du Christ. En quoi ce mot de résurrection revêt aussi une actualité pour aujourd'hui?
Vos résurrections veut dire être réveillé, se lever. Et donc, c'est vrai que le Christ ne fait pas simplement que de revenir à la vie, parce que d'ailleurs après, dans 40 jours, ça sera la fête de l'Ascension, donc il va remonter vers son Père. Et donc, ce n'est pas un simple retour à la vie, c'est une vie nouvelle. Alors, pour le Christ, c'est le retour vers le mystère de Dieu dans la Trinité.
La résurrection est différente d'une réanimation, d'une réincarnation.
C'est la raison pour laquelle les disciples d'Emmaüs, vous voyez, ils ne reconnaissent pas le Christ, alors qu'ils l'avaient vu une semaine avant, ils avaient vécu avec lui plusieurs mois. Et ils ne le reconnaissent pas, non pas parce qu'il ne serait pas physionomiste, mais parce que, voilà, c'est le signe que c'est une vie nouvelle qui commence pour lui. Les baptisés, qui ont été baptisés dans la nuit de Pâques, cette nuit, eh bien, eux aussi, leur vie apparemment n'a pas changé. Ils vont retrouver leurs collègues de travail lundi, ils vont retrouver leur famille le jour même. Et pourtant, c'est une vie nouvelle qui commence pour eux, avec la force de l'Esprit, avec l'Église, avec la communion des saints. Donc voilà, c'est pour ça que Pâques, c'est toujours évidemment un éternel recommencement. Chaque année, nous fêtons Pâques, chaque année, nous fêtons la Semaine Sainte, chaque année, nous avons le temps pascal. Mais là aussi, ça demande notre disponibilité. C'est vrai que quelqu'un qui irait à la messe de Pâques aujourd'hui, d'une façon un peu routinière, eh bien, il manquerait certainement cet enthousiasme que le Seigneur veut donner à tous ceux qui vont communier à sa présence en ce jour béni.
Hier soir, pendant la vigile pascale, et aujourd'hui en cette solennité de Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Christ, beaucoup d'adultes, d'enfants, de bébés ont reçu le baptême. À quoi attribuez-vous cette motivation des personnes qui demandent le baptême, y compris à l'âge adulte?
Oui, alors c'est très impressionnant. Pour ma part, c'est une des grandes joies de mon ministère d'évêque de recevoir chaque année donc les lettres des catéchumènes qui me disent leur cheminement. Alors c'est très très divers. Il y a vraiment des parcours parfois douloureux, parfois qui ont mis beaucoup de temps, plus que 2 ans. Des fois, il y a eu des années de réflexion. Je crois que ils sont aussi le signe pour nous que notre vie va souvent bien trop vite et que les questions essentielles, eh bien, nous les oublions parce que nous sommes pressés par le temps. Et pour le coup, c'est pas uniquement de notre faute. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Mais c'est vrai qu'une épreuve, une souffrance, un décès, eh bien, des fois, amène un retour sur soi-même. Et ces personnes aussi, parfois, avaient enfoui une question qui, des fois, était là depuis leur adolescence ou leur enfance. Et puis aussi une rencontre positive, pour le coup, un témoignage, une conversation fait que ils prennent la décision de se mettre en route et ils sont souvent très heureux de voir que l'Église les accueille, l'Église les accompagne et que l'Église est joyeuse de permettre à ces personnes de rencontrer le Seigneur et donc d'être baptisées et d'entrer d'une façon cette fois plénière dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église.
Et pourquoi ce moment privilégié de la veillée pascale ou du jour de Pâques comme aujourd'hui pour recevoir le sacrement du baptême?
Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour le plus important dans l'année liturgique. Hein. C'est le jour de la résurrection. Et Saint Paul a une expression, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Et donc, les jeunes adultes, les adultes des fois même plus âgés, qui sont baptisés au cours de cette célébration où tous les chrétiens renouvellent leur foi, chantent devant le cierge pascal allumé, qui est le signe du Seigneur ressuscité. Eh bien, voilà, ça a beaucoup de sens. Et puis, dans toutes les églises du monde, c'est l'évangile de la résurrection qui a été lu. Et voilà, ça rappelle à chacun que c'est vraiment là qu'est le cœur de notre foi.
Et puisque vous parlez de la joie en cette fête de Pâques, Monseigneur Jacques Habert, qu'est-ce qui fait votre joie d'évêque ?
D'avoir été le témoin pendant ces temps du carême de la démarche de ces catéchumènes que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, avec l'appel décisif, avec les lettres que j'ai reçues, bien, je sais que dans tous les coins du diocèse, parfois dans des conditions fragiles, eh bien, la joie de Pâques a quand même été réellement présente dans le cœur de beaucoup. Eh bien, voilà, ça me donne beaucoup de joie. C'est vrai que je peux dire être un évêque heureux, même si, évidemment, comme tout un chacun, je porte aussi des questions, une mission qui n'est pas facile, mais ce qui domine ce matin, en tout cas, c'est la joie de croire.
Célébrer la joie, célébrer l'espérance, un amour plus fort que la mort en cette résurrection du Christ, célébré par les chrétiens en cette fête de Pâques. Et en Normandie, il y a aussi des hauts lieux spirituels que nous appelons les sanctuaires, qui sont aussi des lieux de respiration.
Alors, il y a Lisieux, il y a Alençon, le Mont-Saint-Michel, le sanctuaire du Mont-Lijon, il y a un pèlerinage qui a lieu autour de la figure de Jeanne d'Arc à Rouen chaque année, il y a le Bec-et-Loing, vous voyez. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des lieux où vont bien sûr les chrétiens convaincus, mais aussi des gens qui, peut-être par un approche d'abord culturelle ou touristique, se rendent dans un endroit. Et l'enjeu, c'est comment nous les accueillons et comment les lieux dans lesquels ils se rendent peuvent les ouvrir à la foi et à la découverte du Seigneur et de son évangile.
Nous avons bien sûr parlé de la résurrection puisque cette émission est diffusée le jour de Pâques sur les ondes de Tendance Ouest. Dernière question avec vous, Monseigneur Jacques Habert. Avec quel corps ressuscite-t-on ?
Corps glorieux, hein, ça c'est la réponse théologique. Et alors, la résurrection du corps, ça veut dire une résurrection personnelle. C'est-à-dire que notre corps nous détermine. Voilà, nous sommes les enfants de nos parents, nous sommes les parents de nos enfants. Nous avons vécu avec notre corps dans un temps donné, dans un lieu donné, dans une époque donnée. Et donc, quand on parle de la résurrection du corps, on n'a pas beaucoup de descriptions à faire, mais de dire voilà, c'est moi tel que j'ai été dans le temps où j'ai vécu sur terre qui ressuscite. Et donc, ce que je vis n'est pas simplement une espèce de temps comme ça d'épreuves ou un petit peu entre parenthèses, et puis un jour il y aura la vraie vie dans l'éternité, dans la vie éternelle est commencée avec mon corps. Et donc quand on parle de résurrection des corps, c'est surtout ça qui est visé. Après, voilà, nos parents qui sont morts alors que nous étions jeunes, nos grands-parents qui sont morts alors que nous étions enfants, comment nous allons nous retrouver, ça on peut pas tellement l'évoquer. Mais en revanche, il sera toujours vrai que les relations qu'on a eues sur terre, eh bien, resteront réelles, même si elles seront évidemment profondément transformées.
Comme une espérance contagieuse.
Espérons hein, qu'elle soit contagieuse à l'image de ce que vivront les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres, hein, qui vraiment ne peuvent pas garder pour eux cette nouvelle. Quoi. On pourrait se dire, voilà, le Christ est ressuscité, nous sommes heureux et nous en restons là. Mais non, immanquablement, ils vont la porter et ce sera très contagieux rapidement à toutes les nations.
Après avoir écouté Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux, nous allons parler avec vous, Julien Leclerc, de votre livre et également de votre conversion, de votre demande de baptême lorsque vous étiez adulte. Bonjour.
Bonjour à tous.
Avant de vous écouter sur le récit de votre conversion, une région que vous affectionnez particulièrement, c'est la région Normandie.
Particulièrement parce que je vais en vacances à Dives-sur-Mer depuis à peu près 30 ans. Donc j'y passe au grand minimum 2 à 3 semaines par an tous les étés.
Quelques précisions peut-être sur votre itinéraire de vie d'étudiant.
Alors j'ai suivi une classe préparatoire, ensuite j'ai continué des études de lettres à la Sorbonne. J'ai très vite travaillé dans le journalisme et dans la veille médiatique, donc l'analyse média. J'écris énormément. J'aime ces territoires comme la Normandie qui respire la lecture. Et j'aime lire toujours quand je vais quelque part les auteurs du coin. Et quand je vais à Cabourg, forcément, je reprends ma lecture de La recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Un parcours de conversion, qu'est-ce que vous acceptez de dire aux auditeurs de Tendance Ouest ce matin sur les principaux chapitres de votre vie ?
Je me suis revendiqué athée militant d'extrême gauche pendant 20 ans. J'ai pas mis les pieds dans une église pendant presque 18 ans, jusqu'à une rencontre, coup de foudre presque amoureux pour Jésus, qui m'a conduit d'abord sur la conversion, ce qu'on appelle du cœur. Voilà, ce où je voulais vivre en croyant, mais sans le baptême, jusqu'à voilà quelques épreuves qui ont eu lieu dans ma vie. Le décès de ma grand-mère maternelle, une agonie qui a duré presque 2 ans. Et c'était la seule catholique pratiquante de la famille. Donc c'était une femme simple, une terrienne, qui n'avait même pas l'eau chaude chez elle, pour vous dire. Elle vivait sa foi intérieurement, sans bousculer ses petits-enfants, juste en les aimant. Et quand il y a eu son agonie, qui était absolument terrible pour tout le monde, à l'issue de ses funérailles, j'ai eu le déclic de me dire, c'est maintenant où j'ai pris la décision de me faire baptiser.
Mais comment avez-vous discerné, réfléchi pour savoir si ce n'était pas le fruit de votre imagination, cet appel que vous ressentiez à l'intérieur de vous-même ?
C'est vrai que c'est une question qui s'est posée, mais je commençais déjà à croire en Dieu. Je pensais pouvoir vivre mon expérience en dehors de l'Église et juste dans un rapport cœur à cœur avec Jésus. Il y a eu cette décision et je me souviendrai toujours pendant l'enterrement, j'ai croisé le regard d'une statue de la Vierge et qui m'a absolument bouleversé. Et je cherchais au fond de moi qu'est-ce qui me bouleversait autant. Et sur le chemin, je reverrai toujours, quand je ferme les yeux, je me dis il me faut le baptême tout de suite.
Il me faut le baptême tout de suite, mais il y a un temps de préparation que vous comprenez maintenant.
Oui, exactement, et je l'ai surtout compris pendant le catéchisme. J'étais préparé à certaines choses, et vu qu'on est aussi le fruit de ce qu'on est et le produit de son milieu, je viens d'un milieu assez, on va dire, athée, énormément d'a priori sur la religion, et beaucoup de doutes à lever, et beaucoup de réticences à surmonter. Par exemple, je vais vous dire, quitte à heurter la messe. La messe, pour moi, était un obstacle à me dire qu'est-ce que je vais aller faire à la messe, vu que je ne savais pas ce qui s'y passait. Pour moi, c'était une assemblée où des gens chantaient, puis avec un petit discours à la fin, et j'étais pas spécialement prêt jusqu'à connaître mes premières messes où j'ai compris le miracle qui s'y produisait à chaque fois. Donc maintenant c'est un plaisir d'y aller, c'est une nécessité. Mais vous voyez, ça a été un apprentissage assez long.
Et vous avez longtemps cru que la foi était une affaire de culture, une chose intellectuelle réservée à une élite, qui nécessitait du travail, qui nécessitait des études, de la réflexion, ou bien alors une affaire de morale.
J'ai surtout longtemps pensé que c'était une affaire de morale et d'interdits, une suite d'interdits à suivre, une suite de privations à observer et une série de lois à suivre pour brider le plaisir et surtout ne pas fauter. J'ai découvert évidemment tout autre chose et je ne m'épargne pas dans mon livre.
Alors selon vous, qu'est-ce que croire après cette expérience, après ce passage par une conversion, qu'est-ce que croire par rapport à une idée, à un système de pensée ou à une règle morale ?
J'ai un peu de difficulté, je vous l'avoue, avec le verbe croire. Je le trouve magnifique. D'ailleurs, il y a une homophonie avec croître qui est assez révélatrice. Je préfère dire j'ai la foi. La fidesse au sens latin de confiance. Et donc je marche avec la foi, je marche avec la confiance. Et pour moi, la croyance, c'est la confiance. Je sais que je ne suis plus seul.
Que ce soit Anne Romanoff, que ce soit Thierry Bizot qui a préfacé votre livre, ce point commun, vous avez demandé le baptême à l'âge adulte, parfois à plus de 40 ans.
Oui, exactement. Alors moi, j'étais plus jeune, j'avais pas tout à fait 30 ans. C'est une grâce inespérée en fait dans ma vie d'avoir pu me faire baptiser alors que je ne voulais pas rentrer dans une église quand j'étais enfant. Donc oui, c'est un bouleversement. Comme le dit Thierry Bizot d'ailleurs dans ma préface, qu'est-ce qui change ? Rien, tout. Parce que ma vie a continué telle qu'elle était. Je travaille, j'ai toujours mes colères, j'ai toujours... Je reste un homme. Mais j'ai un regard renouvelé sur les choses et le monde.
Alors qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui vous accueillent au sein des communautés paroissiales, qui voient un jeune ça en rural, c'est pas forcément le visage qu'on voit le plus, même s'il y en a de temps en temps, faut pas le nier non plus. Par quoi vous avez été surpris vous-même en intégrant une communauté paroissiale ?
Très bonne question. J'ai davantage surpris et intéressé ceux qui ne croient pas. Parce que tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon vieux ? Raconte-nous, parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de toi. Raconte-nous un peu. Pour les paroissiens, c'est différent. J'ai été accueilli, j'ai noué quelques amitiés grâce à l'église. Mais pour eux, j'étais quelqu'un qui découvrait un peu sur le tard, qui avait des lacunes. Voilà. Pour les gens qui ont grandi, élevés dans la religion, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est assez naturel, c'est familier. Il n'y a rien d'extraordinaire à aller à la messe le dimanche. Mais alors, pour ceux qui en sont éloignés, ça suscite au mieux l'interrogation. Au pire, ça peut susciter le rejet.
Est-ce que le mot paix serait un mot qui permet de bien qualifier ce discernement de ce que vous pouvez ressentir ? Puisqu'apparemment, moi qui vous vois, les auditeurs pourront voir votre photo sur le site internet de tendanceouest.com, Julien Leclerc, est-ce que c'est cette paix qui continue de vous habiter ?
La paix et surtout la joie. C'est le mot que je mets tout en haut. La paix, oui, mais parfois la paix peut être bousculée, elle peut vaciller, la paix, parce qu'on peut être... Il y a des jours où on est tenté, on est en colère, on a des révoltes intérieures, mais c'est comme la mer ou la très chère mer de Normandie qui parfois s'agite et parfois redevient comme un billard. À la suite du pape François, je dis vraiment que c'est la joie. Quand on est un converti, c'est vrai qu'on a un peu toujours la joie en bandoulière, donc quitte à paraître un peu niais, mais faut pas hésiter à la proclamer et à dire que voilà, être joyeux grâce au trésor des évangiles, c'est quelque chose de précieux.
Julien Leclerc, l'invité de Tendance Confidence, avec au cœur de la vie, au cœur de son livre aussi. Je vous laisse rappeler le titre et la maison d'édition de votre livre.
Catholique débutant aux éditions Talendier.
Merci beaucoup.
Et merci à vous.